a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
So we have about 119 records on the table and on the wall.
Nous avons 82 vinyles que nous trois aimons, 12 vinyles que seulement deux d'entre nous aimons, 13 vinyles que seulement un d'entre nous aimons, 12 vinyles qu'aucun d'entre nous aimons. Un ami à moi était un fan fini de Prince, mais comme vraiment obsédé en tout sur Prince. Il pensait qu'il était hétérosexuel, mais le fait d'avoir une obsession si intense sur Prince le perturbait parce qu'il disait ben, « c'est un gars, comment ça se fait que je suis autant obsédée par Prince? » Puis encore aujourd'hui, quand il m'en parle, puis même quand il regarde Prince, je le vois encore se perturber, puis... c'est mon mari.
Bonsoir, bienvenue à toutes les deux.
Merci
d'avoir accepté mon invitation. Peut-être que dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter l'une après l'autre. Et ensuite, on parlera de PME Art et on rentrera un petit peu plus dans vos projets. Sylvie, est-ce que tu veux commencer?
Oui. Alors, Sylvie Lachance, je suis co-directrice artistique de PME Art. À Montréal avec Jacob Wren, qui est aussi co-directeur artistique. Et on a commencé à travailler ensemble il y a très longtemps, ça va faire bientôt 20 ans. Et puis voilà, alors c'est ce que je fais à temps plein.
Okay. Et toi, oui. Claudia?
Oui, je suis Claudia Fanciello et je suis une des artistes qui travaille avec PMR et je pense que depuis 8 ans.
Depuis 2007, en
2007.
Fait. 2007. Okay. Ouais. Okay. Depuis l'automne 2007.
OK. Oui. Fait que toi, donc, si je comprends bien, donc PME Art, c'est un noyau dur.
Oui.
Qui est formé de toi et Jacob.
Moi, Jacob, et aussi l'administrateur Richard Ducharme. Et on se trouve à former une espèce de collectif qui... Et nous, on supporte le travail de Jacob dans la continuité, si on veut.
OK.
Et avec Jacob, donc, lui et moi, on pense à des gens avec lesquels on aimerait travailler, avec lesquels Jacob aimerait travailler. Et la plupart du temps, maintenant, Jacob fait les propositions artistiques de plus en plus. On travaille sur les propositions artistiques ensemble. Et puis, on va chercher les gens. Et une fois que les gens sont trouvés, une fois que les artistes sont trouvés, ils se trouvent à former un collectif du projet. Et c'est eux qui nous alimentent pour faire la production. Nous, on essaie au niveau du noyau dur, comme on disait, d'appuyer les artistes dans leur création. Par jamais Jacob, ou c'est très très rare que Jacob a fait une proposition qui était un peu toute faite, jamais. C'est toujours un travail en collaboration.
D'accord.
Ce que Jacob fait avec PME, c'est un travail en collaboration.
D'accord.
Il va faire d'autres travaux par lui-même, de l'écriture, des livres, des romans. Ça, il fait ailleurs. Dans PME, c'est un travail de collaboration.
Oui, et c'est comme il y avait le projet d'hospitalité, c'était Jacob qui a proposé comme cette idée de travailler en performance, d'explorer les idées d'hospitalité. C'est Sylvie et Jacob qui a comme presque choisi comme pour le projet et
choisi les gens.
Oui, oui. Et après ça, c'était juste une place pour faire des conversations, juste de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, les discussions, plein de travail, de recherche.
Mais toujours ensemble,
Oui. Tu
vois. Puis des fois, quelqu'un pouvait faire une recherche un peu plus personnelle, mais la faire partager aux deux autres.
Oui.
Parce qu'on parle de Caroline Dubois pour le projet Hospitalité, par exemple, qu'on continue toujours à présenter. Donc, c'est Caroline Dubois, Claudia Fanciello et Jacob Wren. Et ils travaillaient, eux. C'est-à-dire, il n'y a pas comme quelque chose de prédéterminé. de la compagnie. C'est sûr que dans le fond, il y a quelque chose qui est PME,
Oui.
qui est une entité un peu difficile à saisir. Même nous, on ne peut pas dire exactement.
Oui, c'est ça, parce que je vois que vous êtes... vous allez exister dans plutôt des lieux qui sont dédiés à l'art contemporain, à l'art actuel, et en même temps, on vous retrouve parfois dans des festivals plus art vivant, on va dire.
Complètement.
Donc, c'est quelque chose d'assez poreux.
Oui, c'est ça. Il y a toujours cette idée de performance, mais une performance à nous-mêmes. Mm-hmm. C'est nous-mêmes qui... C'est pas comme des personnages, jamais comme ça. C'est vraiment nous
qui assumons.
Oui.
Le contenu, la forme qu'on a pris, on assume tout, toujours.
Oui.
Et dans ce sens-là, c'est vraiment performatif.
Okay.
C'est-à-dire que non, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de scénario, il n'y aura pas de... Et il n'y a pas d'écriture comme telle non plus. Jamais Jacob va écrire quelque chose et les gens vont le faire.
Non.
Tu veux dire qu'il y a un cadre au départ et ensuite chacun va performer au sens où il y a de l'improvisation qui se fait dans les propositions?
Toujours.
Oui. Toujours. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu d'hospitalité, finalement, ce gros projet au sein duquel il y a plusieurs petits projets qui se font?
Oui.
Comment c'est né et de quelle manière il vient se développer et exister?
Peut-être que je peux parler de l'origine,
bien sûr.
Claudia pourra parler de l'intérieur.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que nous, on a quand même commencé à exister en théâtre en se disant « on se fout des catégories ». Et puis, comme moi, je m'occupe beaucoup de l'administration, de l'organisation, du booking des tournées, etc. Il y a un côté de moi qui faisait « restons en théâtre parce qu'il y a plus d'argent ».
Ouais.
Et il y avait un côté de moi qui faisait « mais on est en train de... c'est très difficile d'essayer de convaincre nos collègues qu'on fait du théâtre ». Jusqu'à un point où, à un moment donné, on a décidé qu'on allait en art multi, mais pas seulement pour des raisons administratives, mais pour se sentir plus à l'aise et pour respecter la réalité des choses poreuses et des choses difficiles à déterminer.
Quand tu dis art multi, ça, c'est une espèce de section dans les financements publics qui existe.
Oui, tout à fait.
Qui sont un peu les inclassables, finalement.
Tout à fait, c'est ça.
Interdisciplinaire, des fois.
Ouais. Oui, voilà. Alors nous, c'est un problème et c'est intéressant par moment, mais on a une discipline qui s'appelle art interdisciplinaire ou art multidisciplinaire au Québec, mais aussi au Canada et tout. Donc ça, on peut parler longtemps de toute la théorie, tout ça, moi ça me déplaisait. C'est-à-dire que je trouvais que toutes les disciplines auraient dû s'ouvrir à l'interdisciplinarité, et pour moi l'interdisciplinarité ne pouvait pas être une catégorie, une discipline elle non plus. Et là, on tombait dans... J'étais vraiment, vraiment idéologique dans ma position, vraiment. Et je me battais pour que le théâtre s'ouvre. Et finalement, tout ça pour dire qu'on a pris la décision en 2007 de vraiment devenir interdisciplinaire.
Mm-hmm.
Et là, vraiment, Jacob a mis, comme je dirais, son pied à terre, comme on dit au Québec. Et puis, il a vraiment pris la décision. Il faut aller en interdisciplinarité. Et j'ai fait, évidemment, d'accord, bien sûr, et on le fait. Et c'est là qu'est apparu le projet Hospitalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaillait avec des collègues de la danse, on travaillait avec des collègues en art visuel, on travaillait avec des gens en théâtre, on travaillait avec des gens en... On était très inspirés par ce qui se passait sur Internet avec le web qui était encore nouveau à l'époque, d'une certaine façon. Tout ce qui était le 2.0, là, c'était évidemment nouveau. Donc, on était inspirés par mille choses, mais on était très inspirés par la théorie aussi, on était très inspirés par tellement de choses. Et on s'est fait approcher, on était quand même un groupe déjà reconnu, il faut dire, mais on s'est fait approcher par Studio 303 qui nous a offert de faire une soirée, de faire la première partie d'une soirée. Et c'est un peu comme ça que... est venue l'idée de faire quelque chose autour de l'hospitalité. Mais pour Jacob, c'est important, cette notion-là d'hospitalité. Puis Claudia va pouvoir nous en dire plus sur le contenu. Mais tout ça pour dire que, pour parler des différents aspects, ce qu'on voyait d'intéressant là-dedans, c'est que quand on a fait Hospitalité 1, ça s'appelait le titre « Change constamment », et on annonçait, c'est toujours programmatique, les titres de Jacob, c'est lui qui trouve les titres, c'est toujours programmatique, ça nous dit ce que ça va être. Et puis, donc, c'était On va faire de la musique, on va essayer vraiment de faire de la musique. Et sincèrement, ils étaient pas, ils sont devenus meilleurs en pratiquant. Mais c'était aussi l'idée de tourner et de ne pas se lasser de ce qu'on fait. Parce que même s'il y a une grande part d'improvisation, le fait de faire et de faire et de... Et nous, on a toujours tourné à l'étranger. Donc, on savait que le fait de faire plusieurs fois un travail, tu te trouves à l'avoir répété. Donc, dis pas que tu l'as pas répété ou dis pas que c'est si performatif parce que tu as eu le temps de l'apprendre 1000 fois. Les textes, tu vas les dire comme s'ils étaient écrits. Donc, toute cette problématique-là était très intéressante pour nous. Et ce qu'on a décidé de faire, donc, c'était de faire quelque chose où on n'est pas très bon et qu'on va s'améliorer avec le temps. Et là, ça va prendre sens encore plus. Ça va être très bien au début, mais ça va prendre sens au fur et à mesure qu'on devient bon dans les choses qu'on doit faire et qu'on ne connaît pas. On va devenir meilleur. Donc, on a fait ça. On a fait Hospitalité 3 à l'usine C dans un contexte très théâtre. Ça a été reçu assez durement.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, peut-être parce que tout le monde ne connaît pas forcément, mais oui. Studio 303, c'est plutôt de la danse.
Oui, on a fait cette performance aussi dans un bar,
une
galerie d'art, dans à Studio 303. Et la première performance, c'était vraiment comme d'essayer de faire la même chose dans les cadres différents aussi. Oui. Et avec avec des spectateurs très, très différents. Et les lieux aussi, comme les salles, comme à KGB, un petit café, ou dans une grande salle de théâtre.
Ça, comme Usine C.
Du coup, ça avait vraiment une incidence, j'imagine, sur ce que vous produisiez au fur et à mesure de la performance. La façon dont, en fait, était perçu...
Oui,
votre projet.
Oui, mais le projet,
mais ça, c'était la perception.
C'était vraiment plus comme une expérience de perception.
Ouais.
Oui.
Non. Est-ce qu'à ce moment-là, Donc, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le public a une part active à la performance?
Pas vraiment. C'était plus comme une offre.
Okay. Oui.
C'était aussi comme la musique était toujours une grande partie de notre rencontre avec les répétitions ou notre rencontre. C'était vraiment comme on a toujours joué de la musique vinyle et à un moment on a pensé que peut-être de jouer la musique ça peut être une bonne façon à comprendre un peu plus de l'autre. Et avec la première hospitalité, c'était vraiment transparent comme la façon que l'autre travaille ou les choix d'être comme ensemble, de casser quelque chose, de
interrompre ce que fait l'autre.
Oui.
Mais peut-être qu'on peut expliquer en fait finalement en quoi consistait le Hospitalité 1. Finalement, ça consiste en quoi? Comment ça se passe?
Comme je disais tout à l'heure, c'était que les gens s'étaient donnés, les trois artistes s'étaient donnés comme consigne de jouer de la musique, donc d'écrire de la musique. C'est-à-dire qu'ils avaient des instruments et ils essayaient d'en jouer le mieux possible sans être musicien.
On avait, juste pour dire aussi, dans l'espace, on avait une table avec plein des instruments sur la table.
Oui.
Okay.
Et comme un xylophone.
Xylophone,
des flûtes, un piano, comme un piano.
Oui. Comme une espèce de clavier pour enfants, presque, mais qu'on a à PME.
Une batterie,
une vraie batterie, trois guitares.
On commence avec un son répétitif, des fois, et les autres joignent le son.
Okay.
Et à un certain moment, peut-être quelqu'un va prendre un autre instrument, ou peut-être deux autres, ou trois autres, ou des fois de commencer de jouer sur l'autre, à l'instrument de l'autre personne, ou
avec son instrument, jouer sur l'instrument de l'autre aussi, okay.
Oui.
Faire alors, des formes.
Il y avait quelque chose de très sculpturel aussi. Mm-hmm. Et on a fait plein des actions physiques aussi, comme juste tout le monde d'équilibrer sur juste un jambe et continuer de jouer.
Est-ce que c'est des défis que vous vous donnez à ce moment-là?
Oui.
Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé avant, vous en avez discuté ou ça vient comme ça?
Non, c'était il y avait aussi comme des pratiques, des contraintes et des choses qu'on a dit, oh, des choses comme ça, ça marche bien. Ou... Mais c'était pas vraiment comme une chose après l'autre. C'était plus, on a presque toujours travaillé dans ce sens d'avoir comme une banque des actions et des choix. Oui. C'est toujours comme ça. C'est vraiment... Et alors, quelqu'un peut commencer de faire quelque chose et moi, et je peux continuer dans une action ou faire quelque chose complètement différent. Oui.
Rapport de l'individu et du collectif,
voilà.
Dans et votre c'est... travail, toujours.
Oui.
De quelle manière vous l'appréhendez, ça? Comment vous construisez ces propositions?
Le deuxième, ça a complètement conduit directement à ça, puisque ça s'appelait Hospitalité 3, l'individualisme est une erreur.
Je pense que des fois, avec PME, on commence aussi avec une...
Un statement. Donc, avec un énoncé.
Oui.
Mais souvent, c'est aussi
c'est
le
pas
titre.
Nécessairement qu'est-ce qu'on nous sommes toutes dans le même...
Ouais. C'est un point de départ, en fait, à créer une proposition.
Oui. Et des fois, c'est comme... C'est aussi la place où on peut faire un peu
de critique.
Oui,
parce que ça, le discours critique est important dans votre pratique.
Oui, vraiment.
Comment vous faites pour choisir ces outils performatifs, en fait, qui vont vous servir à élaborer un discours critique? Comment ça se passe?
C'était juste, des fois, c'était juste qu'est-ce que c'était avec nous. Et comme j'ai dit, la musique, c'était toujours important à nous trois. Et c'était vraiment aussi comme... Je pense qu'il y a... La musique est une très... C'est une façon d'être à l'aise, des fois. Mais d'accueillir du monde dans une classe que peut-être ça peut être un peu inconfortable.
C'est vraiment un outil d'hospitalité important.
Oui.
On le voit, dans les restaurants, il y a toujours de la musique, il y a toujours de la musique chez les amis quand on va dîner. La musique, c'est vraiment important pour tout le monde. Donc, au début, ça a commencé quand on a travaillé les vinyles par la suite. Mais il reste que la musique, pour nous, c'était beaucoup presque un peu une métaphore pour l'hospitalité. Et c'est présent dans tous les projets d'hospitalité.
Mm-hmm.
En général, on va faire 2 jours.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va faire hospitalité simple, le DJ qui donnait trop d'informations.
Ouais.
Donc, ça, c'est la performance, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment les 3 artistes qui font des histoires. C'est toutes sortes de types d'histoires. Ça peut être politique, ça peut être social, ça peut être anecdotique sur le travail de l'artiste, ça peut être sur une anecdote sur comment le travail a été fait, créé et tout. Ça peut être rattaché à une histoire personnelle. Donc ça, c'est vraiment Hospitalité 5, le DJ qui donnait trop d'informations. Et le lendemain, normalement, on invite les gens à venir faire un peu comme nous, à nous raconter des histoires sur des disques qui ont été importants pour eux. Et souvent, les histoires sont vraiment bonnes et c'est un lieu pour un debriefing, une rencontre avec le public. Et ça, c'est vraiment chouette. Et là, c'est vraiment le public qui vient.
Mm-hmm.
Quand on a joué à Bordeaux, par exemple, il y avait, comme on dit en québécois, un line-up.
Ouais.
Il y avait la queue pour venir raconter des histoires avec leur disque.
Oui, mais juste pour dire comme... le troisième, hospitalité, comme individualisme, c'était une erreur. Il y avait une partie dans cet spectacle ou performance où on avait comme 20 vinyles et des histoires attachées à chaque vinyle. C'était juste les histoires à propos de l'individualiste et l'individu et le collectif. Et pour nous, c'était aussi comme l'industrie de la musique, c'est une métaphore parfaite pour ça. Juste aussi d'avoir, comme toujours, sur les vinyles, il y a presque toujours comme la face d'une personne ou comme la groupe.
Oui.
Alors, c'était vraiment comme le début. Et nous trois, nous avons vraiment pensé qu'il y avait trop
des potentiels, des
histoires qu'on a pensé, oh, mais c'est une super histoire, pourquoi? Mais ça ne fit pas exactement dans cette... performance dans cette case.
C'est ça, c'était alors... ni sur l'individualisme ni sur le collectif, donc ça n'allait pas pour acheter.
C'était pas pour ce projet.
Il vous restait du matériel en fait pour créer un nouvel.
Oui,
on avait des poches.
Et alors, c'était après ça, ça c'était comme le début de Hospitalité 5, le DJ qui donnait trop d'informations. Et avec ça, je pense qu'on a commencé avec peut-être 50 vinyles, et maintenant on a 140,
on a beaucoup plus, en fait.
Oui.
On a beaucoup
mais
plus.
Mais pour les performances, normalement, et pour...
le carnet à théâtre.
c'est
carnet presque... de douane.
Ah oui?
À un moment donné, il faut arrêter d'en aller quand on est en tournée. Donc, moi, j'ai proposé 120, et Jacob a insisté pour qu'on ait 140. Alors, on a 140, c'est top, là.
Et c'est ça, et avec chaque vinyle, on a minimum une histoire. Et c'est vraiment comme le performance, c'est vraiment comme un jeu entre nous trois, où on prend une vinyle, on dit l'histoire, et ça peut être à propos comme l'amour, travail, la société, comme le système de prison,
les révoltes, les
manifs.
Vous mettez ensemble pour chacun sort ses histoires, débriefe dessus et ensuite vous dites ok, toi tu vas raconter ta histoire, comment ça se passe?
Non, c'est ça, c'est comme alors quelqu'un, il n'y a jamais un ordre comme ça. Et alors quelqu'un prend et raconte une histoire Et après, et joue un peu de vinyle,
ouais.
Comme une chanson. Et des fois, c'est aussi comme une chanson qui peut donner un peu plus d'informations
mm-hmm.
sur l'histoire,
mm-hmm.
ou avec le titre ou quelque chose. Et après ça, c'est comme tout le monde en juste entendre, like, on juste écoute la musique ensemble. Alors,
mm-hmm.
il y a aussi comme cette partie que c'était vraiment juste comme un acte de tout le monde ensemble, dans, qui en juste écoute
mm-hmm.
ensemble.
Oui, c'est ça.
Et après ça, il y a une autre personne qui, le deux qui a pas oui, nous pensons quoi dans la banque des histoires peut être une bonne réponse,
ouais.
Oui. Ou une continuité,
oui.
Ou...
et alors c'est ça le jeu,
oui.
Et ça change chaque fois que on fait le...
Est-ce que c'est une performance qui est timée? Est-ce que vous avez dit, OK,
c'est
ça dure une heure?
Normalement, c'est comme 3 heures minimum.
Maintenant, on demande 3 heures minimum pour être capable de... Tu sais, parce qu'on dit souvent qu'ils font la dramaturgie sur le champ, évidemment,
ouais.
Parce qu'ils s'écoutent, puis là, il y a une vieille histoire que quelqu'un a sortie qu'on peut avoir oubliée, puis là, il y a une nouvelle histoire qu'on n'a jamais entendue. Fait que, tu sais, c'est...
Ils vous construisent... Vous avez, en fait, une espèce de narration, finalement.
Oui. Totalement,
oui,
oui. Puis c'est une renarration, parce que même la même histoire, suivie d'une autre histoire, donne pas du tout la même dramaturgie. Donc,
mm-hmm.
il y a une dramaturgie qui est vraiment créée sur le champ. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait soit 3 heures minimum, ou, bon, on peut aller à 5 heures, ou on peut faire le tout autour de 8 heures. Si on n'amène pas tous les disques, évidemment, parce que même à 8 heures, on finit pas la banque.
Je pense que si on... Ça peut être comme... Peut-être comme 10 heures.
Oui, moi aussi, je pense que c'est autour de 10 heures si on faisait toutes nos chansons. On a essayé de le faire, mais...
Wow!
Mais il y a aussi un phénomène intéressant, c'est qu'eux sont épuisés.
Ouais.
Ils sont plus capables de raconter l'histoire tout à fait. Enfin, oui, ils le font, je vous jure, ils le font. Mais c'est quelque chose. Et là, les gens qui ont bu un peu, parce qu'on a le droit de boire dans H5, c'est-à-dire on peut aller chercher quelque chose à boire, on peut s'en aller, revenir après une heure, on peut aller manger, on est libre. Là, il n'y a personne qui est piégé jamais avec ce qu'on fait. Et donc, c'est l'idée que les gens ont compris aussi comment ça fonctionne. Et Claudia disait qu'il n'y avait pas comme telle une participation officielle du public, mais il y a une grande participation,
oui.
Parce que les gens sont appelés à décider de ce qu'ils vont faire tout le temps.
Mm-hmm.
Tu ne peux pas être en face de ça puis pas prendre de décision. Tu es toujours obligé de décider. Et quand les artistes commencent à être fatigués, se trompent dans les mots, se trompent dans les années, souvent les gens les aident. Et c'est fascinant de voir ça à la fin. Les gens vont les aider, ou ils vont rigoler, ou ils vont leur lancer, leur tirer la pipe, ou enfin... Mais il y a quelque chose qui se passe au fur et à mesure. Après une heure d'habitude, les gens sont relax et puis commencent à se dandiner sur leur chaise. Et le côté DJ est présent, parce que tout dépendant de qui est là, si tu es avec des Allemands ou si tu es avec des Anglais, ça peut ne pas danser, mais souvent, même avec eux, ça va danser.
Mm-hmm.
Les gens, à la fin, vont danser. Et pourtant, leur but, ce n'est pas de faire danser les gens comme des DJ, c'est des DJ qui parlent trop,
mm-hmm.
comme l'indique le titre.
Et c'est
alors...
aussi, c'est pas comme notre... C'est drôle parce qu'on on choisit les disques, le vinyle, pas à cause de la musique,
mm-hmm.
c'est à cause de l'histoire. C'est comme...
On choisit l'histoire plutôt que de choisir la musique parce qu'on l'aime, par exemple.
Oui.
Ou parce que ça va être bon dans le build-up.
Oui.
On choisit l'histoire plutôt.
Oui, c'est pas comme la musique qui... C'est comme, oh, maintenant, on va mettre quelque chose avec cette...
Mm-hmm.
Son. Alors, il y a toujours comme... C'est vraiment... Comme un peu... C'est du comme vraiment hardcore punk,
mm-hmm.
un autre moment de rap, un autre moment de... musique classicale, ou quelque
Dalida.
Chose. Ou Dalida, ou Lionel Richie. Alors, c'est vraiment... Yeah, ça passe à tous les gens de musique.
Il y a beaucoup de musique aussi rare. sais, Jacob, oui. Mais tout le monde dans l'équipe, tout le monde connaît des choses que personne ne connaît.
Un peu plus spécifique, un petit peu plus pointu.
Oui. Mais oui. Aussi, Jacob, ça fait des années qu'il est beaucoup en connexion avec des gens qui vendent des disques et tout ça. Donc, il connaît des disques 1929 en Angleterre, des Africains qui font de la musique.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et puis, tu n'as aucun nom de personne. C'est seulement que l'enregistrement est là. Quelqu'un l'a trouvé et l'a remasterisé, ouais. Comme on dit en bon français. Et puis, c'est un disque fantastique. Puis, je ne sais pas où Jacob l'a trouvé, mais des gens... tu sais, il fait une recherche quand même assez pointue. Claudia connaît des choses que moi, je ne connaissais pas du tout. Caroline arrive avec une autre approche complètement. Donc, ça, c'est le fun.
Et aussi, l'autre partie de l'hospitalité, c'est qu'en tournée, on essaie aussi de trouver de la musique qui vienne de...
Ouais.
Et des fois, comme en Estonie, à Tallinn, c'était vraiment pour nous, on n'avait pas le moment pour chercher quelque chose estonienne. Et il y avait une femme à la fin de le spectacle qui a nous donné comme une vinyle d'une artiste de Tallinn.
Okay. Ouais.
Et des fois après ça, on fait aussi comme de recherche et d'essayer de travailler comme une histoire sur cet artiste. Ou des fois, on raconte comment le monde nous donne des vinyles. Je pense que pour moi, c'était juste d'essayer de voir comme une place de contemplation. C'est ça? Mm-hmm. Contemplation?
Oui, contemplation.
Juste d'être ensemble et en même temps dans nous-mêmes, mais ensemble.
Mm-hmm.
Et juste vraiment d'avoir ces deux sentiments à l'aise, mais comme tout le monde, je pense que c'est aussi comme une place pour d'être avec votre pensée, comme juste vraiment dans... Des fois, dans votre nostalgie aussi, parce que la musique, il y a toujours quelque chose de nostalgique, mais en même temps, de pousser un peu plus comme dans nos histoires, dans nos connexions avec la musique et avec toutes les histoires, avec tous les topics.
Oui,
alors, les sujets. Et des fois, c'est ça, c'est comme... Je pense que c'est vraiment une place un peu... Il y a quelque chose un peu comme une méditation. Like, c'est mm-hmm. pas ça, parce que il y a beaucoup de musique comme ouais. boom boom, mm-hmm. mais en même temps, c'est une place de faire beaucoup de réflexion.
Oui. Je trouve que c'est très intéressant, parce que je pense que si on demandait aux trois... comme ça, à brûle pour point, comme tu as fait, mm-hmm. je pense qu'on aurait trois réponses différentes.
Oui.
Je pourrais parler aussi de quel était le but pour nous quand on a travaillé sur l'hospitalité. Mais ce à quoi ça me fait penser, c'est que c'est vrai ce que dit Claudia, ce côté-là où ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui est à la fois très individuel, à l'aise, le droit d'être soi-même, mais vraiment simplement
mm-hmm.
dans la... totale simplicité, sans prétention, mais en même temps, en ayant donné beaucoup, c'est très exigeant comme travail.
Oui.
Mais en même temps, de recevoir le collectif tel qu'il est et ne pas viser à être autre chose que ce qu'on est. On dirait toujours qu'il faut avoir le corps différent de ce qu'on a, il faut avoir la tête différente de ce qu'on a, il faut toujours être quelqu'un d'autre, il faut toujours être un collectif meilleur que ce qu'on est. C'est pas ça, c'est célébrer qu'est-ce qu'on est ici et maintenant, à travers toute l'histoire qu'on a racontée à droite et à gauche. Et ce qui est comique, c'est que les choses, ils racontent... Tu sais, c'est le temps d'une chanson, puis bien souvent, ils finissent la chanson avant la fin.
Mm-hmm.
Donc, c'est très court. Et ça n'arrête pas de passer comme ça. Fait qu'il y a quelque chose qui devrait être très superficiel, et pourtant, on touche quelque chose de très, très profond
oui.
dans les gens.
Mm-hmm.
Il y a un paradoxe dans ce travail-là qui est absolument fascinant pour moi. Et je sais que le but de Jacob au début, puis on s'est tellement... Oh, Seigneur, je pense qu'on s'est... On s'est pas engueulé parce que c'est pas notre genre. Nous, on s'engueule, c'est pas comme ça qu'on agit. On va parler pendant des heures. Ça, c'est la même chose que s'engueuler. C'est juste qu'on est vraiment tough, les deux. Et puis, on va endurer ça pendant des heures. Donc, puis le lendemain, on va remettre ça sans problème. Le même ton, on va répéter les mêmes choses s'il le faut. Donc, le but, c'était dans un contexte politique. Parce que là, on était avec George Bush quand on a commencé le projet. On sait que la droite et l'extrême droite est en montée partout. Et nous, ça nous affolait. Mm-hmm. Et pour Jacob, c'était, mais il n'y a pas, il faut quand même discuter. Son obsession, c'était, il faut discuter. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une discussion soit possible? Parce qu'au niveau politique, on ne peut pas se parler, on ne peut pas se blairer, on ne peut pas se sentir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même engager une relation? Pour ne pas complètement bloquer, parce que là, on est toujours en confrontation. Donc, on va aller nulle part. On est allé nulle part pendant des années, et là, on va encore nulle part, et on va aller nulle part pendant encore d'autres. Une autre décennie ou plusieurs décennies, qu'est-ce qu'on fait? Pour lui, hospitalité, la notion d'hospitalité était peut-être le seul moyen. Donc, un certain respect, une ouverture. C'est sûr que Derrida n'est pas loin derrière non plus. Donc, c'est comment ouvrir quelque chose, comment défaire un nœud plutôt que de rester sur sa position idéologique. Mais en même temps, tu ne changes pas ton opinion, tu ne changes pas l'opinion de l'autre. Mm-hmm. Donc, c'était jusqu'où on peut aller avec l'hospitalité et là, essayer de frapper le mur idéologique s'il le faut, quoi. Mm-hmm. Et c'est bizarrement, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Peut-être qu'au fond, on a juste attiré des gens qui pensent pas si loin de ce qu'on pense. Je pense pas. Je pense qu'on a vraiment eu un public très différent. Mais c'était l'idée d'essayer de faire de l'hospitalité de façon à ce qu'on puisse, au moins se toiser dans le même espace, sans se tuer, sans s'assassiner. Et pour moi, ça posait problème, cette notion-là, parce que moi, j'étais prête à assassiner n'importe qui, parce que franchement, la droite ou l'extrême droite, c'est pas... On ne peut pas tolérer ça. Ça ne se tolère pas. Donc, mais en même temps, il y a comme un côté où je trouvais très, très intéressant toute cette contradiction-là, parce que jamais les propos politiques, par exemple, dans le spectacle, jamais qu'ils ont fait de concessions, jamais, jamais. Mais ils font pas de concessions entre eux non plus. Si quelqu'un a une position un petit peu plus nuancée, vraiment pas comme les miennes, beaucoup plus nuancée sur il faut appuyer une certaine gauche comme ça, ou il faut faire ça comme ça, jamais qu'ils vont faire des concessions, puis jamais PME va dire « Non, tu suis pas la ligne idéologique du parti de PME. »
Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Ben, une histoire qui vous vient?
Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est celle de Chic. Ah, que, oui. Ça, c'est ma préférée, je trouve, parce que c'est Jacob qui la racontait. C'est... comment on prononce son nom? Niles?
Niles Rogers.
Niles
Rogers.
Niles Rogers.
Roger.
Yeah. Roger.
Yes.
Chacun son tour. Et puis, il était membre des Black Panthers dans les années 60, tout ça, et c'était déjà un musicien reconnu et tout. Et quand il a fondé Chic, ou quand il faisait son travail en général, parce qu'il collaborait avec tellement de monde, il a fait des hits avec tellement de monde.
Vraiment. Disco.
Disco.
C'est comme vraiment disco.
Et ce qu'il disait, c'était pourquoi si un chanteur folk blanc fait des références à l'histoire des années 30, de la dépression et tout le monde va voir l'allusion.
Comme Bob Dylan.
Puis il en nommait d'autres aussi. Oui. Et si moi, je fais la même chose, mais parce que j'ai un style disco, mais aussi, il ne faut pas oublier que le disco était beaucoup une appropriation black dans les années où il en parlait, donc à la fin des années 70, vraiment, c'était le disco avec le mouvement gay, le mouvement black et les blancs qui travaillaient ensemble sur une façon de voir la musique et de voir... ça a tout un mode de vie, en fin de compte. Et puis, pour lui, c'était « Pourquoi, moi, on ne me prend pas au sérieux parce que je fais du disco? » Mais derrière ça, c'était aussi « comment ma musique est connotée black, comment ma musique est connotée amusement, comment simplement à cause de la couleur, au fond, je deviens quelqu'un qui fait du showbiz. Mm-hmm. Et la valeur politique et les propos politiques qu'il y a derrière, on les voit même pas, on voit même pas l'allusion. Et pour moi, c'est exactement comment je jugeais les choses aussi à la fin des années 70. Je détestais le disco. Le disco a fait que la musique commerciale est rentrée vraiment dans les radios, alors que la musique supposément progressiste était vraiment partout dans les radios. Le disco a vraiment rebalayé et ça a repenché le balancier vers la musique commerciale. Et puis, moi, je ne le prenais pas, mais je ne voyais pas non plus à quel point c'était connoté au niveau racial aussi. Et puis, je trouve cette histoire-là assez... mais Jacob la raconte beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Il est bien meilleur.
Il y a aussi toujours un moment où, parce que c'est vraiment, à une certaine façon, c'est très simple.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment comme... Il n'y a pas... beaucoup des actions. C'est juste vraiment de prendre le vinyle, de raconter l'histoire. Et après, il y a
faire
aussi...
Faire jouer le vinyle.
Faire jouer le vinyle. Et nous avons tous nous trois aussi comme des façons de le mettre qui est très précis ou comme est très différent. Et on a aussi comme le...
Oui, on a une...
étagères où on place les couves.
Les pochettes.
Une fois qu'elles ont été écoutées, en fait, vous les placez derrière vous.
Oui, alors c'est comme une mosaïque, c'est comme toutes les traces de toutes les histoires sont là toujours. Oui, et c'est ça.
Pourquoi c'était important pour vous de choisir une forme qui était... Tu dis que c'était une forme assez simple, finalement, c'est pas des actions forcément compliquées.
Oui.
C'est quelque chose de facilement appréhendable.
Il y a aussi, comme c'était ça, il y a toujours un moment où il y a comme une respiration ou quelque chose de tout le monde. It's like, oh, ça va être ça, c'est ça.
Oui.
Ça va être ça pendant 3 heures.
Oui.
Et il y a, je pense que des fois, un peu de... c'est un peu empeurant, comme...
Oui.
Avec, c'est like, ça va être juste ça, juste pour, you know, pour 3 heures. Il y avait des autres personnes qui commencent d'être plus à l'aise et plus à l'aise dans la structure.
Mm-hmm. Oui. Oui, mais il y en a qui
stressent. Oui.
Il y en a qui stressent un peu.
Oui.
Puis aussi, c'est il y a comme un petit vertige à cause de la simplicité qui fait que c'est un peu in your face, comme on dit en anglais. Donc, c'est vraiment, tu le reçois et tu ne peux pas faire autrement. Mais aussi, encore une fois, c'est, par exemple, Jacob peut être assez provocateur, parce qu'il est comme ça. Donc, il peut venir mettre un disque et puis dire quelque chose de très bête, au fond, ou de très radical. Je trouve que Claudia va peut faire ça aussi, mais il va y avoir autre chose qui va se passer, puis ça va être drôle, ça va être rigolo. Tu sais, un peu comme quand elle raconte quelque chose qui est très politique aussi sur le long de Madonna. Donc, c'est un prêt Madonna que la Grèce avait accepté de mettre sur pied, les banques avaient accepté de mettre sur pied un prêt particulier pour aller voir Madonna parce que c'était trop cher, c'était la crise économique en Grèce et c'est pas récent. C'est en 80...
C'était...
Pas 99.
It was...
2007. Oui, c'était une des premières crises en Grèce. Et comme elle le dit, ça a l'air comme quelque chose d'un peu drôle et tout ça, mais après, tu sens que les gens font « wow », ils le prennent.
Mm-hmm.
Et puis tu te dis, un jour, peut-être qu'ici, on va être obligé de faire un prêt pour aller voir nos musiciens. Peut-être, tu sais, il y a comme un après-coup qui est reçu. La même chose avec Caroline. Caroline peut amener des trucs tellement d'une façon bête, d'une façon directe. C'est incroyable comment elle peut être. Pouf! Et puis tu le prends ou tu le prends pas, Mais c'est toujours individuel, c'est-à-dire que le contexte est toujours bien agréable, tu as toujours ta bière et tout le monde a le droit de parler. Donc,
oui.
Tu veux dire le public comme pour les performeurs.
C'est-à-dire entre que, eux aussi, il y a toujours comme cette sentiment juste...
Il y a toujours une circulation. Même oui. Des gens, pendant qu'ils font la performance, des gens parfois se lèvent, vont avec leur téléphone prendre des photos, des musiques qu'ils ont aimées. Mais ils sont en train de jouer. Il y a quelqu'un derrière, là. Tu vois pas ça souvent. Puis on dit pas aux gens, vous pouvez participer. C'est que les gens ont le devoir de participer s'ils veulent ou de ne pas participer s'ils veulent.
Ça se fait de soi, en
fait. Ça va de soi. Personne, on n'est pas des amuseurs publics, on n'est pas des... On n'est pas à la garderie, mais c'est les gens qui décident. Et c'est pour ça que certaines soirées, des gens dansent à la fin, puis d'autres dansent pas. Mm-hmm. D'autres, il y a des fois, tu sais ce que dit Claudia pour la méditation. Donc, c'est cette idée-là que on essaie de...
La méditation, c'était pas un bon mot.
Non, peut-être pas, non. Non, mais un lieu de réflexion, comme oui. Si c'était... Comme si les gens étaient en train de penser au fur et à mesure qu'on dit des choses, au fur et à mesure qu'on écoute, mais les trois font la même chose, on fait tous ça.
So these are two records that I bought in Denmark. And I didn't know anything about either of these records when I bought them. I bought them for two reasons. The first reason was I didn't know anything about Danish music, and I was a bit curious. But the other reason is I really like the covers. We have this expression in English, you can't judge a book by its cover. I don't know if you have something similar in French. Is there something similar in French?
No.
Not really. Okay, so you can't judge a book by its cover.
Oui?
Yes? Oh, yeah. Okay, so there is. You can ask the same question twice and get two different answers. So.
I saw these ladies and it was the first time in my life where I was like, oh my God. This is my music. This is who I am in musical form. And I was the one who ended up sharing this music with my friends. I have to say that I don't know if I quite feel the same way anymore. But you can just imagine my 11-year-old self.
Nina Simone, à son premier concert de piano classique, a refusé de commencer le spectacle parce que le directeur de la salle avait déplacé dans la dernière rangée ses parents. Et elle a refusé de commencer le concert tant que le directeur de la salle allait remettre à l'avant ses parents. Et le directeur l'a fait et elle a donné son premier concert de piano classique.
Many years ago, my friend came back from living in Athens, Greece, and they were giving out loans at the bank of Greece, specifically to give people enough money to go see Madonna. And they were actually called the Madonna loans.
Everywhere liberty goes, it leaves a path of destruction. Fast food, bad architecture, materialism, experimental theater shows where they play records, rampant greed, environmental destruction, imperial...
And so you wanted a hit? Well, this is how we do hits. You wanted a hit? But that's not what we do.
juste avant que tu partes, juste une dernière question. C'est quoi les prochains projets? Est-ce qu'il y a une nouvelle hospitalité qui est en route? Est-ce que ça va avoir lieu bientôt? Est-ce que vous pouvez dire quelques trucs là-dessus ou c'est encore un peu à l'état de réflexion?
Comme à Montréal.
Oui, c'est ça.
Nous avons comme fait une autre ouverture et on a invité les autres artistes à travailler et juste jouer dans la même structure. Et alors, ça va être comme plus comme une groupe des artistes et on va faire un peu comme une DJ night. Alors, à Montréal, plus comme dans un lieu qui est un bar. Mm-hmm. Et ça va être aussi comme le même pratique. C'est une façon juste de continuer et aussi comme faire une invitation à les autres artistes.
Donc, vous aurez d'autres artistes en plus de vous trois. En fait,
oui, c'est ça. Oui. Donc, on va avoir évidemment le groupe de base. Mm-hmm. Donc, Claudia Fancello, Caroline Dubois, Jacob Wren. Caroline, comme elle vit à Manchester de ce temps-là, bon, peut-être qu'elle ne sera pas là, mais elle fait quand même partie de la base, puis on a retravaillé ensemble. Les nouveaux artistes sont Karine Deneau, Adam Kinner et Marie-Claire Forté. Marie-Claire qui a fait la tournée en France, qui est parfaitement bilingue, donc qui est avec nous à Bordeaux. Et puis, on va jouer à la Vitrola les derniers lundis de chaque mois à partir de mars, avril et mai. Donc, la Vitrola, c'est...
The monthly DJ night.
Oui, c'est ça. Donc, à chaque mois, ça va être un peu différent parce que les gens vont avoir réfléchi, retravaillé et puis reviennent avec leurs propositions. Puis, il ne faut pas se le cacher, ça va être aussi une façon pour nous de... Parce que tu ne peux pas répéter ça vraiment, il faut le faire devant les gens. Et puis donc, c'est un peu comme, c'est ça, c'est des soirées ouvertes. Et puis, on demande aux gens une contribution volontaire autour de 5$, quelque chose comme ça.
OK. Super. Ben, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Et bonne continuation dans vos projets.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.